Donc bonjour, nous sommes là dans le cadre de la manifestation Regard Neuf, la bande dessinée autrement, qui a lieu jusqu'au 2 juin à Bordeaux et qui vous présente non seulement de la bande dessinée mais aussi d'autres formes artistiques en termes d'exposition ou en termes de performance. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un photographe qui s'appelle Monsieur Gilles Bordepagès, qui est à mes côtés et qui est exposé ici à la librairie Mola pour un reportage graphique qu'il a fait pendant 4 ans dans les quartiers du Rengoku à Tokyo, où il a suivi les entraînements et les tournois des sumotori de ce quartier-là, de Rengoku, et qui fait écho au travail de David Prudhomme, qui est exposé en ce moment à l'Espace Saint-Rémy, et qui, lui, a suivi le tournoi du Kyushu Basho, donc de la ville de Fukuoka, qui est une ville jumelée avec Bordeaux, en novembre dernier, et qui en a ramené tout un tas de dessins, hétéroclites, et qui est exposé actuellement à l'Espace Saint-Rémy jusqu'au 2 juin. Donc on va démarrer cette rencontre justement sur le regard un petit peu de ces deux artistes, photographe et dessinateur, par rapport au sumotori, et voir un petit peu ce qui a pu les animer dans leur regard d'artiste sur cette pratique sportive qui reste encore aujourd'hui assez méconnue en France, et voir avec eux justement ce que ça a pu leur apporter, et puis en termes de curiosité, en termes artistiques. Donc ma première question, Monsieur Bordepagès, parce que donc, vous avez suivi pendant 4 ans ces sumotori, comment vous avez pu justement les aborder, comment cette rencontre s'est faite au départ en fait?
Au départ, c'est une incompréhension totale. Ce qui m'intéressait, c'est que il y avait une séduction du sumo qui était une séduction a priori, sans que j'y comprenne rien. Et sans que je comprenne pourquoi ça m'attirait. L'attirance était essentiellement graphique, puisque ce qui m'intéresse, c'est la photographie. Donc, et ce sport, de par le mouvement, les masses imposantes a priori des concurrents, et surtout l'extrême rapidité du combat, ça représentait pour moi, en tant que photographe, un défi. Je pensais que c'était très compliqué d'arriver à sortir de belles images parce que ça va trop vite. Mais il y avait une attirance qui allait au-delà, et j'ai compris plus tard que c'était une vraie séduction parce que je comprenais rien. Le problème, c'est que je comprenais tellement rien, c'est que je photographiais absolument que ce qui me plaisait d'un point de vue graphique. Et après, la séduction, elle s'est développée, elle a grandi, et je pense que n'importe qui pour la première fois participe à un tournoi de sumo et passe une journée complète pour regarder une journée de combat, donc, est définitivement conquis à la fin de la journée. Même si on est loin d'avoir tout compris, il faut des matchs et des matchs avant de comprendre, de faire le tri entre ce qui relève de la religion, ce qui relève du rite totalement gratuit, et puis ce qui relève des règles du jeu.
Mais vous avez pu quand même aussi accéder aux entraînements.
Ah oui.
Alors, parce que là, vous nous parlez en effet du côté tournoi et de la découverte en tant qu'occidental de cette pratique-là. Mais dans le travail que vous avez réalisé photographique, vous avez quand même pu aussi justement accéder aux entraînements. On en parlera aussi avec David. Et les entraînements sont des lieux quand même qui sont assez fermés et pas forcément ouverts à tous, et surtout aux Occidentaux qui pourraient venir uniquement faire du tourisme là. Alors, comment vous avez pu
alors,
vous y
accéder, dans le quartier de Ryogoku, qui est le quartier où se trouve le stade, le sumodrome, qu'on appelle le Kokujikan, et où se tiennent tous les ans 3 basho, c'est-à-dire 3 tournois. Il n'y a que 3 tournois à Tokyo, et les 3 autres tournois ont lieu, puisqu'il n'y a que 6 tournois en total dans l'année, pour tous les sumotori du monde, puisque tout se passe au Japon. Donc, dans le quartier où se tiennent les 3 principaux tournois de l'année, donc à Tokyo, se trouvent 80% des écuries. Donc, c'est dans ces écuries qu'on peut assister aux entraînements, à condition de se lever tôt, à condition d'y aller plus tôt les mois pairs, parce que les mois impairs, ce sont les mois où il y a les tournois, et les mois pairs, il n'y a que des entraînements. Et les mois où il y a des tournois, il est très difficile d'accéder dans une EIA, c'est-à-dire une écurie. Mais dans les mois où il y a des entraînements, la plupart des écuries acceptent les étrangers ou les Japonais, à la condition qu'il n'y en ait pas plus de 3 ou 4 par séance, bien sûr, à la condition que les gens arrivent au début de la séance, c'est-à-dire plutôt à 6h du matin qu'à 7h30 du matin, et puis à la condition d'avoir demandé l'autorisation au propriétaire de l'AIA. Ce n'est pas très compliqué, ça a un avantage, c'est que c'est gratuit, alors que les tournois sont quand même relativement chers. Ça a un inconvénient, c'est qu'on peut faire ça que les mois impairs, et c'est quand même soumis à l'autorisation du propriétaire de l'AIA. Il y a quelques... Alors on dit EIA ou ABEIA, parce que ça dépend comment on l'écrit, ça veut dire écurie hein, ou équipe, mais il y a quelques propriétaires qui refusent, bon ils sont plutôt rares, disons que 60% des écuries de Tokyo acceptent les visites pendant les mois impairs.
David, oui. tu as toi-même rencontré des sumotori, mais là dans le cadre du tournoi de Sumotori du Kyushu Basho, donc qui avait lieu à la ville dans la ville de Fukuoka, et ça rentrait dans le cadre du 30e anniversaire de la ville de Bordeaux et de la ville de Fukuoka, quoi, du jumelage de ces deux villes. Là, tu as une résidence de création pour suivre un petit peu ce tournoi de Sumotori. Est-ce que ça te... Alors déjà, comment tu as pu vivre ça, et qu'est-ce que ça a pu t'amener et t'apporter, toi, en termes artistiques, et est-ce que ça te donne l'envie peut-être d'aller un petit peu plus loin plus tard avec eux?
Bon, disons que alors effectivement, donc c'est dans le cadre d'un la délocalisation des tournois hein, dans l'île de Kyushu, donc un des trois tournois dont vous parliez là, qui se joue à l'extérieur de Tokyo, que s'est déroulé mon reportage ou le suivi du tournoi, enfin qui a accouché, dont j'ai accouché quelques dessins par la suite. Il se trouve que j'ai eu accès à un entraînement, à une séance d'entraînement la veille du tournoi, grâce, je pense que c'est grâce à une chaîne de télévision qui m'a suivi. Comme c'était pas NHK, finalement l'écurie d'Aku a décliné la proposition et je me suis retrouvé dans une écurie Azuma. Mais enfin bon, c'était deux sumotori classés Maegashira, qui étaient les plus capés de la EIA. Donc effectivement, on s'est levé assez tôt et ça a duré toute la matinée pendant que le shanko chauffait, cuisait. Ça, c'était la première, je dirais, la porte d'entrée vers ce monde-là. Donc, c'est pas tout à fait le quotidien, parce qu'ils sont à la veille d'un tournoi, donc il y avait une certaine tension. Mais enfin, c'était une manière d'en rentrer par les coulisses et de sentir peut-être plus la peine, le travail, une certaine souffrance quand même du corps. Alors que le lendemain, donc lors du tournoi, donc là, j'ai adopté une technique pendant cet entraînement, une technique graphique qui était assez terreuse, avec un travail au crayon sur la poudre. Enfin, on sentait beaucoup l'argile. C'est ce qui m'a frappé d'ailleurs, c'est la présence de la terre du dojo, enfin de la salle d'entraînement. Et puis le lendemain au tournoi, alors par contre, c'est une débauche de couleurs, c'est une grande fête. Tous les coussins. Violet, enfin bon voilà, un cérémonial aussi qui se développe, et les tabliers de cérémonie des lutteurs, ce décorum en fait qui m'a d'abord très impressionné, que j'ai trouvé difficile immédiatement à rendre. Je me suis dit, mais comment arriver à saisir l'ensemble de cette chose là donc je me suis concentré quand même sur les lutteurs et les matchs qui vont effectivement très vite. Et ce qui est saisissant, c'est toute la préparation là, d'avant-combat, tous ces rituels qui font monter la tension. et qui sont pour moi le sel du sumo, quoi. C'est-à-dire qu'on a, on est suspendu à l'instant précédant l'assaut, le tachi-ai. Et donc ça peut durer toute la journée, cette espèce de suspense qui finalement se résout en quelques secondes. Après, pendant le combat, et pendant le combat, il y a la tension, les corps qui se déforment, une espèce de, effectivement, comme disait Gilles, les corps, qui, les masses qui se mélangent, qui se mêlent, qui se déforment avec les contrastes des ceintures, des choses, des chignons. Enfin, c'est tout de suite assez graphique quand même. Donc moi, c'est une approche, voilà, que vous le sentez à travers mes propos, assez graphique. Je pense que j'ai rien compris. Hein, voilà. Je suis à la première approche, première couche, mais il y a une sensibilisation qui a été assez immédiate grâce à l'entraînement, en fait. Ouais.
L'avantage de l'entraînement, surtout pour un occidental, c'est que ça dure longtemps. Un entraînement dure plusieurs heures. Et on voit les sumotori souffrir, parce que c'est très éprouvant. On les voit dans un travail d'endurance. On les voit dans des exercices de souplesse, puisqu'ils font quasiment tous le grand écart facial. Donc ils vont embrasser la terre en étant en grand écart. On les voit dans un travail de musculature très difficile, puisqu'ils font le tour du... Le doyo, c'est le... On va dire le cercle magique, ça a une forme ronde, c'est ce qui délimite l'aire de jeu. Et le but du sumo étant de pousser l'autre en dehors de l'aire de jeu ou de lui faire toucher le sol de l'aire de jeu, qui est en argile, par autre chose que la plante de ses pieds. Et donc, quand ils font des exercices en faisant le tour du doyo, comme s'ils étaient assis, sauf qu'ils n'ont pas de chaise, et ils avancent en même temps, je vous mets au défi de faire 2 mètres comme ça, tellement c'est musculairement insupportable. Ils font ça pendant plusieurs minutes, en criant pour... Alors en plus, nous on ne comprend pas ce qu'ils disent, donc il y a une ambiance qui est absolument extraordinaire. Donc l'entraînement, c'est magique, on ressort de là, on est complètement groggy, parce que... Voilà. Et c'est vrai...
J'avais faim en sortant.
Oui, mais eux aussi. Et aussi, le chanko, c'est l'espèce de pot-au-feu hyper calorique qui mijote pendant toute leur séance d'entraînement et qui mange ensuite. Ils en mangent jusqu'à 4 par jour, voire 5. Dans des temps très anciens, quand ils faisaient du gavage, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ils en mangeaient jusqu'à 14, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Et voilà, donc l'entraînement, c'est... je crois que c'est vraiment un bon moyen d'accéder au sumo, parce que les combats, au début, on comprend vraiment rien. C'est-à-dire que la partie rituelle dure 4 minutes pour les plus gradés, versus 2 minutes pour les moins gradés. Mais derrière le combat, le temps moyen d'un combat, je crois que c'est 18 secondes. Donc, c'est dur, quoi. Alors, il y a des combats oniriques qui durent plus d'une minute. Là, la salle est complètement en délire. Les gens hurlent dans la salle, ils crient le nom des champions. Je suspecte quelques champions de faire un peu durer le plaisir quand ils se connaissent bien. Mais de toute façon, il n'y en a qu'un qui gagnera. C'est un tout. Et je pense que c'est important d'avoir fait des entraînements et des combats. Il faut faire les deux pour profiter.
Alors ça, c'est intéressant, parce que vous parlez du temps des combats. Alors on est sur deux pratiques artistiques, la photographie et le dessin. Je pense qu'il est tout aussi difficile pour vous deux d'arriver à capter peut-être l'instant, le moment, que ce soit au moment de déclencher la photo. Là, je m'adresse plutôt à toi, David, par rapport au dessin. Justement, c'est vrai qu'un combat est quelque chose de très rapide. Arriver à capter l'instant et pouvoir le dessiner, comment tu as réussi, toi, à pouvoir te placer justement dans le public, peut-être, et dans le sumodrome pour arriver à être à la meilleure place et arriver à capter cet instant-là, ouais. Tout en essayant de comprendre en même temps.
Mais c'est un des défis du dessin d'après nature. Un des potentiels défis, c'est, je ne veux pas emprunté aux, aux grands anciens, mais je veux pas marcher absolument dans leurs traces, mais il y a une phrase qui est assez, qui est de Delacroix, assez connue, là, qui dit il faut, quand on sait bien dessiner, être capable de dessiner un homme qui tombe du troisième étage dans le temps, de la chute, quoi. Donc c'est pas désagréable à faire, hein, en tant que dessinateur, c'est vraiment même une pratique assez agréable. Après, le résultat, bon, ben, on trie a posteriori, finalement. Je pense que c'est comme une rafale, d'une certaine manière. Mais saisir une ligne, voilà, c'est, tout, c'est une sorte de, d'exercice plutôt, très, plutôt finalement assez agréable et qui peut parfois donner, ben, voilà, tout simplement un écho à ce qui s'est réellement produit. Voilà. Donc le combat, ça peut être vite un entrelac de lignes, tout simplement. Quoi. C'est, il n'est pas nécessaire de reproduire exactement les positions. Enfin, en tout cas, ce n'est pas comme ça que j'ai envisagé la chose. Quoi. J'ai vite compris que ce n'était pas un travail documentaire au sens premier du terme que j'avais envie de faire, mais plutôt une retranscription de sensations, de... Ouais, c'est essentiellement un travail de sensitif et puis après de rêverie sur ces masses, sur ce choc, ces bruits, tout ce que j'avais ressenti, ces couleurs éventuellement. Et voilà, des petites choses m'ont frappé, par exemple la terre qui se craquelle. Enfin, je veux dire, c'est un processus naturel, mais on peut y mettre une symbolique ou une signification, voilà, en voyant le poids des corps qui sont dessus, voilà, des petites choses comme ça, la terre du doyo, hein, en argile, donc elle est arrosée en permanence après par les yobidachi, les gens qui s'occupent de l'entretien du doyo, mais malgré tout, sur les bords, elle est un peu craquelée. Quand on voit un sumo tori, un lutteur monter dessus, ça peut faire tout de suite une image qui veut à laquelle on peut faire dire beaucoup de choses, alors que c'est peut-être pas une réalité. Mais c'est, voilà, c'est un principe d'évocation, en fait. Et après, l'entraînement, enfin, plutôt avant, donc, l'entraînement m'avait permis de saisir les grands principes, j'allais dire, des lignes, des positions de jambes, qui sont finalement des répétitions lentes et des gestes qui doivent être parfaitement enregistrés, enfin, pour pouvoir ressortir à l'instant crucial, au moment du combat, parce que tout se joue vraiment, Gilles l'a expliqué là, dans une fraction de seconde, c'est la capacité de sentir l'instant qui fait, j'imagine, le grand champion, enfin, qui distingue les champions des autres, quoi. Et donc, voilà, c'est pas un problème, c'est pas forcément une problématique en dessin que de... d'avoir une action qui se déroule très vite devant soi, quoi. Peut-être en photo, peut-être plus.
Oui, voilà, en termes de...
faire les réglages et tout. Oui.
Non, en photo, ce qui est compliqué, c'est de jouer avec la lumière des salles dans lesquelles se déroulent les combats, parce que c'est une lumière artificielle qui est assez mauvaise au départ, mais dans le même temps... Si on en prend le parti, si on accepte l'ambiance très particulière de cette lumière, on arrive à faire, à condition d'avoir un matériel adapté. Donc ça c'est, au début c'est un problème, et puis après on s'en contrefiche. Ce qui est intéressant dans la photo, ça va être, j'y suis pas forcément toujours parvenu dans ce que j'ai choisi pour mettre dans le bouquin, mais en revanche, c'est ce vers quoi je me tourne si je dois exposer ou faire des grandes photos, c'est saisir des détails, saisir des petites parties de l'image totale de ces corps qui sont complètement encastrés l'un dans l'autre, des positions de bras, des positions de jambes, des choses qui ne vont pas nécessairement expliquer un mouvement, mais qui vont bien retransmettre l'ambiance. Non, ce que disait David, moi je suis assez admiratif devant ce sport, parce que ce sport, il a plus de 2000 ans. Et il n'a pas changé. C'est ça que je trouve le plus extraordinaire. Ils sont nus, comme il y a 2000 ans. Ils ont juste un mawashi, qui est un grand morceau de tissu. Alors, originellement, ça fait plus de 10 mètres de long, ça fait 70 cm de large. C'est plié trois fois, donc les 70 cm, ben, avec les plis, ça fait en gros un peu plus de 10 cm, le string qui vont se tourner. Pour bien le serrer, parce qu'il faut éviter que ça baille pour plein de raisons, pour bien le serrer, ben, ils s'y mettent à plusieurs. Ils poussent avec le pied en tirant. Dans les compétitions où ils savent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un de plutôt difficile, ils vont même mouiller le lin plusieurs heures avant pour qu'ensuite, en séchant, ils se resserrent pour pas que le compétiteur en face puisse passer les doigts entre le mawashi et la peau. Ça s'appelle un mawashi. Donc ils font plusieurs tours, il y a une façon particulière de l'attacher, et ça c'est indestructible. Enfin, c'est quasiment, enfin, on a vu des dizaines et des dizaines ou des centaines de combats, j'ai jamais vu un mawashi se défaire. Ce qui se défait souvent, c'est quelques décorations, puisqu'il y a des fois des rayons, donc ce sont des cordelettes de soie qui sont empesées, ça ressemble à des rayons, à des piquants. Ça, c'est uniquement décoratif. Il n'y a que les plus gradés qui mettent ça, en général. Mais voilà, ils sont dans le plus simple appareil. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Ça fait 2000 ans que c'est comme ça. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai envie de les prendre en photo. C'est à moi de m'adapter, quelle que soit la lumière, quel que soit le geste, quel que soit... voilà. Et ce que je trouve extraordinaire dans le travail de David, parce que moi, j'ai fait ça pendant... je les ai suivis pendant plusieurs années, et puis je continue, parce que c'est devenu un peu une drogue. Et puis parce que maintenant, je les connais. Avant, un Japonais ou un Mongolien, je ne savais pas faire la différence. Aujourd'hui, je fais la différence entre eux. C'est-à-dire que je les reconnais, je sais qui est qui, je sais ce qu'il fait, et je me prends un peu au jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je trouve extraordinaire dans le travail de David... C'est que quelquefois, ce qu'il dessine, d'un strict point de vue reproduction, c'est totalement faux. Mais c'est faux parce qu'il y a tout dedans. Il y a le mouvement que moi, je n'ai pas pu prendre en photo. Donc moi, j'ai figé un truc, c'est techniquement exact, mais ça ne donne pas le mouvement que lui va donner parce qu'il est entre deux mouvements et il a compris comment ça marchait. Et ça, je trouve que c'est ce qui est extraordinaire dans le dessin. La chose la plus dommage dans la photographie, c'est les rafales, dont j'abuse. Mais ce que je préférerais, c'est être capable de ne prendre qu'une photo qui serait exactement ce que j'ai vu. Quand je prends une rafale, ça veut dire que je ne suis pas sûr d'y arriver. Donc je prends un petit peu avant, un petit peu pendant, un petit peu après. Et c'est ce qu'il y a de pire. Malheureusement, voilà, je ne fais pas du dessin, je fais de la photographie, donc je m'adapte. Mais
je refais aussi. Hein, tu sais.
S'il y en a parmi vous qui n'ont pas vu l'exposition de dessin, de peinture, la mise en scène, parce qu'il y a une vraie scénographie juste à côté dans la rue dont j'ai oublié le nom, mais dans un espace... L'espace Saint-Rémy, allez-y, parce que c'est... absolument fabuleux.
Alors ça, c'est intéressant, parce que justement, en tant que dessinateur, comment tu vas construire ton image ? Ce que nous dit Monsieur Bordepagès, le rapport entre la photo et le dessin, c'est en effet l'instantané, en fait, et puis le fait que le dessin puisse permettre une évocation personnelle. Mais comment tu vas construire cette image-là, justement ? Arriver à être entre deux, finalement. Entre être au milieu d'une action, voilà, et de pouvoir la dessiner et nous faire comprendre un mouvement ou autre par le dessin. Comment tout cela va se construire ?
En pyjama, assis à sa table. Enfin, par une sorte de rafale, mine finalement aussi, mine
mais
de
dans
rien.
La tête.
C'est dans la tête. C'est une concision en fait. Il faut simplement faire une synthèse a posteriori de l'image, avoir presque rassemblé plusieurs images, plusieurs instants, et puis essayer d'en synthétiser, quoi. Alors c'est pas forcément non plus du premier coup que sort la bonne ligne ou le bon dessin, donc il m'arrive de refaire aussi pour ça que je parle de rafale, c'est parce que parfois, pour arriver à faire, malgré tout, justement, la ligne qui va à la fois jouer avec l'équilibre, la pesanteur, et je m'y reprends parfois à plusieurs temps. C'est-à-dire, j'en fais, et puis il y en a parfois une qui va passer. Moi aussi, j'aimerais de temps en temps en faire qu'une, et puis que ça tombe juste. Alors ça arrive, hein, ça arrive de temps en temps, mais... Donc, enfin voilà, c'est principalement c'est plus facile, je dirais, quand on a l'image préconçue, de toute façon, en dessin, d'arriver à ressortir. Les enfants le savent bien, je pense, quand ils dessinent, s'ils ont déjà mentalisé ce qu'ils vont faire, ça sort beaucoup plus facilement que si on leur que dans le cas contraire. Et la précision technique qu'on peut trouver dans les photos, elle est parfois perturbatrice pour un dessin, en fait, parce que si on court après, effectivement, on peut arriver à un dessin faux, finalement, qui ne fera pas ressentir cette masse, alors qu'elle est dans la photo. C'est le cas, d'ailleurs, des photos. Et j'ai repris quelques photos de Gilles Bourtepage en dessin. Et ce qu'on sent dans les photos, en cherchant à en avoir une ressemblance, je dirais, réaliste ou photographique en dessin, parfois, c'est peu probant. Donc, je me suis livré à deux, trois fois parce que c'est un support extrêmement précieux, malgré tout, notamment pour plein de raisons. Enfin, voilà, autant de détails vestimentaire que de plis de peau aussi. Enfin, il y a un travail incroyable qui est fascinant, d'ailleurs, sur la nudité. Gilles parlait de la nudité des lutteurs. C'est là où, avec cette ambiguïté aussi de leur coiffure, il y a quelque chose d'assez fascinant de voir à quel point ce que peuvent donner finalement ces corps dans le mouvement, dans le combat, comment les plis se forment et se déforment, comment tout d'un coup des creux, des vallons apparaissent. C'est très beau, tout ça. Donc voilà, l'exactitude d'une photo peut nous renseigner sur effectivement le poids d'un biceps, je ne sais pas, le flanc de l'adversaire. Pardon, mais c'est pas forcément en restituant cette courbe-là exactement qu'on la ressentira dans un dessin, qu'on ressentira la pesanteur de ce biceps. Enfin, voilà.
Alors, par rapport à vos travaux, que ce soit par rapport au Sumo de Rengoku, le livre photo qui est paru là aux éditions Déclic, ou que ce soit l'exposition qui est actuellement présente à l'espace Saint-Rémy, on voit que tous deux, vous avez construit aussi bien l'ouvrage que l'exposition en amenant le public, le public, que ce soit les lecteurs ou que ce soit le public de l'exposition, à venir rencontrer le Sumotori, mais en ayant un côté un peu pédagogique. Vous essayez de faire comprendre justement à ce public comment se passe en fait le Sumotori, en partant du côté entraînement, le côté coiffe, le côté habillement de ces Sumotori, jusqu'au premier mouvement qui serait les entraînements, et jusqu'à arriver au combat où là ensuite on va nous parler, vous allez nous parler chacun de vous, aussi bien des différentes prises ou des différents personnages et grades de ces Sumotori, tout en nous parlant en même temps des personnes qui gravitent autour du dojo. Ma question, c'est, est-ce que vous pensez en tant qu'artiste, qui a un besoin aujourd'hui encore par rapport au Sumotori, de devoir expliquer aux gens vraiment ce qu'est le Sumotori sans leur laisser une part comme ça d'imaginaire finalement? Est-ce qu'il faut aller au fond des rites, des combats et de la façon dont ça se passe? Ou alors est-ce qu'il faut peut-être aussi laisser au public la possibilité de pouvoir imaginer eux-mêmes ce
commence, parce qu'on a plein de choses à dire. Là. Donc, je ne sais pas. Moi, je vais percer l'abcès tout de suite. Ouais. Moi, on a fait ça pour mon bouquin, parce que c'était le souci de l'éditeur. Parce que l'éditeur, il voulait éditer un livre, mais il voulait en vendre quelques-uns. Donc, il avait peur qu'en ne mettant que de belles photos, et on aurait pu mettre deux fois plus de photos avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de plis, beaucoup plus de choses qui, moi, m'intéressaient et qui correspondaient à ce que j'avais envie de faire. Donc, des choses très graphiques, picturales, des recherches de... Mais sans texte, il pensait qu'il n'en vendrait pas. Donc, il fallait mettre des textes. Et le principe qui a été retenu pour que le bouquin soit édité, c'était une photo, un texte, une photo, un texte, une photo, un texte. J'ai réussi à un petit peu détourner ça, parce que vers la fin, quand on montre des combats, mais là, c'est très explicatif, il y a plusieurs photos qui se succèdent sans qu'il y ait de texte. Trouver quelqu'un qui soit capable d'écrire... les textes qui devaient aller avoir qui pouvaient aller avec les photos, c'était très compliqué à trouver. Donc bon, moi, je me suis dit, ben, je vais essayer d'expliquer ce que moi je bon, a posteriori, j'en suis pas mécontent, parce que le travail que j'ai fait, j'ai d'abord fait pour moi. Ça m'a permis de comprendre, d'aller au fond des détails, et puis ça m'a pris du temps, j'ai creusé, j'ai été obligé de vérifier que c'était exact, etc. Mais en revanche, la démarche artistique, c'était pas celle-là, la mienne. C'était pas ma démarche initiale. J'aurais voulu ne mettre que des photos. Et j'aurais aimé percer quelque chose que j'ai pas percé. Donc c'est pour ça que je suis toujours en quête. En fait, dans le sumo, c'est une règle absolue. Le sumo ne doit jamais manifester de sentiments. Le sumotori, le combattant. Il doit, quand il est triste, ne pas le montrer, quand il est en colère, ne pas le montrer, et quand il est content, ne pas le montrer. Alors, il ne doit pas le montrer parce qu'il doit avoir du respect pour l'autre. Et quand il vient de gagner, il ne doit pas être triomphant. Il doit être comme l'autre qui a perdu, qui ne doit pas montrer qu'il est triste. Donc, ils sont totalement impassibles. Et donc, je les ai traqués pendant des tournois entiers avec des gros télés où j'avais des énormes gros plans et où j'attendais le moment où il y en avait un qui allait grimacer de douleur ou manifester de la joie ou autre. Et ça, j'avoue que c'est la chose la plus frustrante, parce que sur 4 années de combat, où j'y suis quand même allé souvent, très régulièrement pour les tournois de janvier et de mai à Tokyo, à part une ou deux fois où Akuo s'est énervé, Akuo étant le Yokozuna actuel, donc le plus grand champion, le reste du temps, il y a quelques facéties au moment où ils font les rituels de Mongols qui se tapent sur les fesses et puis qui en rajoutent, qui crient, qui veulent se montrer très méchants pour impressionner l'autre. Mais en dehors de ça, ils sont totalement impassibles. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils ont le même visage. Et ça, quand on essaye de saisir quelque humanité ou autre, je crois qu'au niveau photo, c'est le plus frustrant, de toujours avoir des gens qui ont la même expression sur le visage.
Alors, il y a deux affaires à suivre. Il y a tout le travail photographique que vous avez fait qui n'a pas été encore publié dans un ouvrage, qui sera peut-être l'occasion d'une exposition.
Oui.
Voilà. Et aussi le travail que vous continuez à entreprendre donc auprès des sumotori pour essayer de capter le moment
où il craque.
Où il craque. Alors toi, justement aussi, David, par rapport à l'exposition et la façon dont tu as voulu construire justement la narration de l'exposition, on peut se retrouver un petit peu dans l'ouvrage de Monsieur Bordepagès. C'est une envie aussi peut-être d'expliquer un petit peu la façon dont se déroule une journée de tournoi de sumotori, puisque on démarre par des galeries de portraits, par des sumotori qui pourraient être aussi tout droit sortis de ton imaginaire. Avec des positions ou des tenues existantes, mais avec des physiques qui sortent plutôt de ton imaginaire. Et Et la façon dont tu as construit cette exposition, toute la première partie où on voit cette galerie de portraits avant d'arriver au moment culminant de l'exposition où on se retrouve face à l'évocation d'un dōyō, parce qu'on n'est pas à la bonne hauteur ni à la même dimension qu'un dōyō original. Mais tu as eu toi aussi cette envie justement de, avec le public, de lui expliquer un petit peu à travers tes dessins la façon dont se passe une journée de tournoi de Sumotori.
Oui, voilà, le livre de Gilles est quand même idéal pour comprendre. J'insiste, vous pouvez aller l'acheter sans problème, parce que, outre la qualité des photos, on a quand même une vraie clarification sur beaucoup de points. Ils ne sont pas inutiles, et ce n'est pas inutile non plus de comprendre et de passer par tous ces... Enfin, de lire tous ces rites et toutes ces choses qui ne finalement dénature en rien la beauté qu'on peut saisir a posteriori, juste par le mouvement des corps. Donc il est parfois plus difficile, c'est malheureux, mais c'est un peu comme ça, une règle commune. C'est un peu difficile de tout de suite de proposer à quelqu'un un univers uniquement visuel, parce que tout le monde n'a pas forcément la disponibilité peut-être de plonger dans le temps que ça demande finalement pour apprécier ça. C'est pas que les choses soient précieuses pour autant, mais c'est toujours un temps particulier que de pouvoir apprécier les plastiques ou l'esthétique des choses en fait. Dans l'exposition, c'est essentiellement, je dirais, une progression autour des rites qui précèdent le combat. Et puis le combat, effectivement, est la partie centrale de l'expo. Mais c'est un petit peu tous une sorte de présentation de tout ce qui peut se passer autour du combat. En fait, d'abord, on a quand même été frappé par les corps. Immédiatement, les visages, effectivement. Après, j'aimerais bien revenir là-dessus parce que il y a une vraie, dichotomie entre le corps, les corps qui s'expriment démesurément, enfin dans toute leur puissance, et puis l'impassibilité des visages, même si parfois il y a quand même une légère déformation de par les frottements. Mais c'est très beau ça. Cette dichotomie entre les deux éléments du corps, le visage et les membres. Et déjà, il y a une forte impression en passant à côté des Sumotori qui sont quand même non pas des monstres à Hachi, mais au contraire des masses hyper puissantes. C'est des athlètes, effectivement. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup rappelé les taureaux de combat dans l'Ansiero, dans les taurils, quoi, à Pamplune ou autre. C'est une masse de muscles comme ça, et des lignes hyper graphiques. Et puis on sent la puissance immédiatement, quoi. Donc c'est quand même loin de l'image, même s'il y en a qui sont très adipeux, mais c'est loin de l'imagerie, de l'a priori qu'on peut avoir vu de loin.
Et ouais. Juste pour dire que le poids moyen des sumo qui, dans les années 70, le poids moyen dépassait les 160 kilos, il est aujourd'hui, en 2013, le poids moyen aux alentours de 142 kilos. Donc les sumotori maigrissent parce qu'ils ont des meilleurs régimes alimentaires, parce qu'ils font plus de musculation qu'avant. C'était interdit avant pour eux. Pour des raisons soi-disant réglementaires, ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc, ils peuvent faire la musculation, ils font d'autres sports, ils font plein de choses. Et on parlait tout à l'heure d'un
comme nos rugbyman, alors.
Voilà. On parlait tout à l'heure d'un sumo qui fait moins de 100 kilos, quoi, qui a des résultats qui sont assez remarquables. Donc, c'est des athlètes avant d'être autre chose. Il y en a certains qui sont très gras. Parce que c'est leur morphologie et puis parce qu'ils mangent trop. Mais c'est pas une graisse. Quand on voit la vivacité qu'ils ont, la souplesse qu'ils ont, le sens de l'équilibre qu'ils ont, la puissance qu'ils ont, ça reste des athlètes. C'est vraiment.
Ouais, puis c'est vraiment ça la magie de ce sport. Je dirais, c'est que justement ils ont toutes les qualités des athlètes auquel s'ajoute le surpoids malgré tout, parce que quand même, il ne faut pas être sorti trop vite du cercle, ou bousculé, quoi. Donc ça a une donnée qui perturbe tout et qui, moi, m'a fasciné, quoi. Mais, donc voilà, bah, sinon, moi, je termine vite, mais l'exposition, elle est conçue là-dessus, sur la découverte des visages, des corps, puis les petits rituels à travers quelques dessins, il y a un Simon qui s'entraîne.
Oui. Je pense qu'il y a une ABA là-haut et s'entraîne.
Alors, nous, on parle tous les deux du sumo de compétition, c'est-à-dire du sumo professionnel.
Après, ouais.
Il y a 800, on va dire, sumotori qui sont licenciés pour faire des compétitions au Japon. Il n'y a qu'au Japon qu'on peut faire ces compétitions-là, et il n'y a qu'au Japon qu'on fait du sumo professionnel. Maintenant, dans le Japon entier, on pratique du sumo en dehors de ce sumo professionnel, en particulier dans les universités où le sumo est désormais ouvert aux femmes, alors que dans le sumo professionnel, une femme n'a absolument pas le droit de monter sur un dojo, c'est parjure, c'est sacrilège, etc. Mais dans le sumo universitaire, c'est possible. Et il y a du sumo, j'ai envie de dire rural, qui participe aux fêtes et qui rythme les fêtes dans les campagnes, où tout le monde pratique le sumo. Mais ce n'est pas le sumo de compétition. Mmh. Ce sont des tournois qui ont lieu, comme nous, on a les bals populaires pendant la saison d'été et le bal des pompiers le 14 juillet. Ben, eux, ils ont des périodes où il y a des tournois de sumo dans les campagnes. Ça ne s'appelle pas tout à fait pareil. Il y a la même racine sumo, mais bon. Et tout ça pour dire que c'est un sport qui est extrêmement spectaculaire, extrêmement populaire, extrêmement répandu. Il fait partie de la culture japonaise. Et nous, on ne s'est intéressé qu'à une toute petite partie du sumo, qui est le sumo de compétition, celui des professionnels.
Est-ce que... Pardon.
Mais non, mais j'ai l'impression que c'est... C'est bon, c'est ancienne de dire ça, mais au Japon, y a beaucoup, quand on tire un fil comme ça, la pelote est très longue en général, et un peu infinie. C'est pour ça que peut-être que les traductions perdurent, parce que ça s'ancre vraiment et ça va chercher au plus profond de l'humain aussi, voilà, ses croyances.
Ceux qui pratiquent ce sumo rural, c'est le boulanger du village, le ferronnier, le garagiste, et puis on les retrouve pendant les périodes où il y a les tournois entre les villes de ces campagnes, on les retrouve à s'affronter entre eux, mais sans qu'ils aient des habits de parade, sans qu'il y ait tout ce qui... voilà, et ce sumo-là, on en parle rarement, parce qu'il n'est pas spectaculaire, il ne passe pas sur la chaîne NHK en prime time, voilà. Mais il existe et il est profondément ancré, et les gens y attachent autant d'importance que certaines compétitions dans nos campagnes jadis, quoi. Enfin, ouais.
Alors peut-être justement que vous parlez de ça, parce que les hauts gradés actuellement des sumotori ne sont pas d'origine japonaise. Ils sont mongols. Et ce, depuis quand même pas mal d'années. Il y a eu, je crois, aussi un Hawaïen qui a été très haut gradé. Ça fait, vous savez, depuis combien de temps à peu près qu'un Japonais n'a pas été Yokozuna, donc le grade suprême du sumotori. Je pose une colle.
Oui, non, c'est pas une colle. Ça, enfin, je peux pas donner l'année exacte, mais ça remonte au début des années 90. Le dernier Yokozuna, puisqu'il est le rang suprême, et quand on est Yokozuna, on l'est à vie, contrairement aux autres grades où on peut devenir, par exemple, Ozeki, et puis si on n'a pas gagné la moitié des matchs du Basho, on a droit à un sursis quand on est Ozeki, et si le Basho suivant, c'est-à-dire le tournoi suivant, on ne gagne pas la moitié des matchs, plus de la moitié des matchs, on tombe, et on tombe dans la division d'en dessous. Alors que Yokozuna, bon, normalement, l'honneur veut que si on perd trop de matchs, on démissionne, mais définitivement, c'est-à-dire on prend sa retraite. Mais un Yokozuna, c'est un titre honorifique en plus, qui fait que un Yokozuna l'est à vie. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas des Yokozuna tout le temps. On peut passer 10 ans sans Yokozuna, parce que pour être Yokozuna, il faut avoir gagné plusieurs bashos, consécutif. Donc aujourd'hui, on en est au 64e Yokozuna au Japon. Il n'y en a pas eu plus. Donc c'est pas souvent qu'il y a un Yokozuna. En ce moment, il y en a deux qui ont satisfait les normes. Donc, et les deux, c'est des Mongols. C'est Akuo qui l'est depuis maintenant 4 ou 5 ans, qui a 30 Akuo, il a 31 ans. Il mesure 1m92, donc il ne fait pas partie des grands, hein, puisque les grands mesurent plus de 2 mètres. Akebono mesurait 2m30, il pesait 262 kg. C'était l'hawaïen dont on parlait. Il mesure 1m92 et il pèse 152 kg à Kyo. Bon, il n'est pas difforme, c'est quelqu'un qui est costaud, mais pas plus qu'un rugbyman de chez nous. Bon, simplement, entre les tablettes de chocolat, il y a un peu de graisse qui se rajoute, mais ça, c'est pour que, quand les autres veulent l'attraper, ils n'aient pas de prise. Ça fait partie de l'inconscient. Ils essayent d'être le plus rond possible pour qu'il n'y ait pas d'aspérité, pour qu'on ne puisse pas les attraper. Parce qu'on va quand même parler du jeu. Le jeu, ça consiste à attraper l'autre pour essayer de le mettre dehors. Donc on peut le pousser, si on est très costaud, c'est ce qu'on essaye de faire, mais si l'autre est moins costaud, il va essayer de dévier la trajectoire en faisant une forme d'esquive. Il a 4,55 m d'espace de jeu, c'est le diamètre du toyo, pour le faire. Et sinon, ben dans l'affrontement initial, quand il saute l'un vers l'autre, le but, c'est d'attraper le mawashi de l'autre. Donc, il faut avoir les bras assez longs parce qu'eux, ils se tiennent dans une position pour éviter justement qu'on puisse s'attraper. Et si on ne peut pas attraper le mawashi, on essaye d'attraper des plis. Des plis sous les bras, sous le coude, etc. Les surfaces qui sont interdites étant le visage et puis... les parties génitales. On n'a pas le droit de s'en prendre à ces choses-là. Alors le visage, on a le droit de le frapper main ouverte. On ne peut pas le frapper à poing. Ils n'ont pas le droit de fermer les poings. Mais main ouverte, alors ça, c'est très très rigolo, parce que des fois, ils sont en train de se donner des baffes pendant des minutes entières. Ouais. En fait, ça a un but, c'est d'éloigner l'autre pour l'empêcher d'attraper le mawashi. Quand on les voit faire ça, c'est parce qu'il y en a un des deux qui a peur que l'autre attrape son mawashi, parce qu'il sait que l'autre a une différence de poids qui fera que s'il attrape le mawashi, il le prend, il fait tout le doyo, il le pose à l'extérieur. Ça, c'est pour un occidental, quand on voit ça, il y a un Estonien qui fait ça, c'est Baruto. Baruto, quand il fait cette prise-là, c'est extraordinaire. Bon, à un moment, il prend, s'il arrive à attraper le mawashi de l'autre, alors Baruto, il fait 2 mètres 5 ou 6, il pèse 220 kilos. Et c'est pas du tout ni un Mongol ni un Japonais, hein, c'est un Slave, un Estonien. Donc, il attrape, quand il a réussi à attraper le mawashi, il bascule en arrière. L'autre, il a les pieds dans le vide comme dans les dessins animés. Et puis là, il marche, il va le poser à l'extérieur. Et là, la salle est en délire.
Et il s'est blessé au Kyushubasho de 2012. Là. Bien.
Ouais. Alors, justement, c'est au gradé, vous avez pu les approcher, que ce soit les Ozeki, les Yokozuna, vous avez pu approcher ces sumotori pour pouvoir aussi bien les photographier que les dessiner Est-ce que c'est facile de pouvoir les approcher, justement?
La réponse, c'est oui, dans les basho, on peut, tout le monde peut approcher tout le monde. Il y a des périodes qui sont en plus dans les basho. Un basho, c'est un tournoi, donc chaque jour, il y a une écurie qui va préparer le tchanko qui est distribué pour à peu près 5 euros à tous ceux qui veulent manger sur place. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Dans le sous-sol du Kokujikan, on peut aller manger la recette du tchanko, donc cette espèce de pot-au-feu hypercalorique que manger. On peut le manger. Ça change donc tous les jours, c'est une écurie différente. Et tous les jours, en même temps, il y a un ozeki en général, ou un yokozuna, donc dans les plus hauts gradés, ancien, qui vient et qui vient en général pour promouvoir soit une association, soit une ONG, soit lui-même. Des fois, c'est lui-même, ce qui nous a permis de voir un des ozeki les plus populaires au Japon, mais surtout en Europe, qui s'appelle Kirishima, puisque c'est le seul qui a écrit un bouquin sur la vie d'un lutteur de sumo. Bon, on l'a vu au tournoi de janvier, il était là, il donnait
Les empreintes.
Les empreintes de main, oui. Ça, c'est la façon de donner les autographes là-bas. C'est, ils donnent des empreintes de main. Alors, ils ne les font pas sur place, hein, ils les font à l'avance. Et puis ensuite, ils les donnent ou ils les vendent. Voilà. Mais donc, il y a une vraie ferveur. On peut aussi les voir quand ils arrivent au Kokujikan, puisqu'ils passent devant le public à l'extérieur. Alors, ils arrivent, comme ils habitent dans le quartier, ils arrivent avec des tongs en bois, et puis ils arrivent en tenue de sumo. Donc, on les voit de loin, et puis les gens sont là en train d'applaudir. Ils font une haie d'honneur. Bon, on peut se placer là, on peut faire des photos, on peut faire des dessins, on peut faire tout ce qu'on veut. Et puis, après, on les voit surtout dans les restaurants de Chanko qui sont autour, puisque la plupart des anciens ont ouvert un restaurant de Chanko. C'est le cursus normal quand un lutteur a dépassé, on va dire aujourd'hui, entre 35 et 39 ans. Donc il s'arrête beaucoup plus tard, contrairement à ce qu'on imagine, que nos sportifs européens qui font de la natation et qui s'arrêtent à 23 ans. Hein. Eux, ils vont souvent jusqu'à 35 ans. Ce n'était pas le cas avant, parce qu'avant, ils avaient des problèmes cardiaques, de diabète et autres. Ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. Ils sont bien mieux suivis et puis ils mangent mieux. Donc ils ouvrent des restaurants de Chanko tout autour du Kokujikan. Tout le quartier de Ryogoku est infesté des restos de tous les anciens champions. Donc on peut les voir là aussi. On peut les voir dans les entraînements assez facilement. Et puis le Japon, c'est un pays où on respecte les autres. On respecte tout au Japon. C'est le pays où on respecte le plus de choses. Donc on respecte aussi la photographie. Ce qui veut dire que ça n'effarouche jamais un Japonais que de voir un appareil photo braqué sur lui. Au pire, il va faire ça et sourire, parce que c'est comme ça qu'ils font quand on les prend en photo, normalement. Mais sinon, il ne fait rien, et puis c'est un non-événement pour lui. Il va saluer, dire bonjour, et puis voilà. Donc oui, en revanche, parler avec eux, c'est un peu compliqué, quoi. Les Estoniens, les Brésiliens, les Mongols parlent mal, mais ils parlent un peu le japonais. En revanche, ils ne parlent pas du tout le reste. Et les Japonais parlent bien le japonais, mais pas du tout le reste non plus. Donc moi, on a essayé de parler un petit peu avec eux, notamment des sorties d'entraînement ou autres. Il n'y a pas d'échange. Il y avait un Tahitien donc, qui parlait le français, mais qui n'est plus aujourd'hui. Voilà. Sinon, c'est vrai, sur les nationalités, il y a... Aujourd'hui, dans les 60, on va dire, gradés qui jouent en deuxième moitié de journée, il y en a plus de 30 qui sont étrangers. Mmh. Voilà, et les meilleurs sont plus des Japonais aujourd'hui. C'est des Mongols ou des Estoniens, des Géorgiens, des Russes, il y a un Brésilien, il y a... voilà. Et ça pose un vrai problème, hein. C'est que il y a plusieurs choses qui font que le sumo périclite un petit peu au Japon en ce moment. Il y a eu des problèmes de drogue, parce qu'ils ont saisi dans certaines écuries un petit peu de drogue. Il y a eu des problèmes de brutalité, parce qu'il y a une forme de bizutage où on fait travailler les plus jeunes pour les mettre au pas, avec des épreuves physiques qui, quelquefois, sont beaucoup trop difficiles. Les entraînements sont trop rudes pour les plus jeunes et on dit voilà, t'apprendras parce que c'est dur, quoi. Donc il y a eu quelques scandales parce qu'il y a eu un décès dans une écurie il y a deux ans. Il y a eu des Mongols qui n'ont pas respecté vraiment les règles que respectent les Japonais, notamment le Yokozuna avant Akio. Il fréquentait un peu trop les boîtes de nuit et puis il cherchait la bagarre, donc pour avoir cassé le nez de quelqu'un avec qui il se battait, il a été obligé de démissionner et de quitter le sumo définitivement. Donc il y a eu des petites choses comme ça. Et surtout, il y a eu des matchs truqués avec des paris qui étaient faits sous la table. Un petit peu comme dans notre handball français, je crois. Et ça plaît pas du tout, quoi. Mais surtout, ce qui ne plaît pas, c'est que depuis le début des années 90, il n'y a plus de Yokozuna japonais. Donc, c'est insupportable pour le... Et il y a plus d'ozeki étrangers que d'ozeki japonais. Je crois qu'il y a deux sur les six, parce que maintenant il y a six ozeki, avant il n'y en avait que quatre. Je crois qu'il y a deux japonais et quatre étrangers.
Si on reprend l'ouvrage dont faisait référence M. Bordpagès, Mémoire d'un lutteur de sumo, de Kirishima, c'est un livre que tu connais,
oui,
qui t'a accompagné un petit peu sur ce voyage-là et qui t'a fait découvrir justement un peu le monde du sumo avant d'arriver au Japon.
Oui, ça m'a permis de connaître un peu les règles avant d'arriver. Parce que je ne connaissais pas encore le livre de Gilles. Mais il décrit son parcours dans ce livre. Et ça m'a, il m'a touché, ce livre aussi. Parce que lui, donc il n'a pas atteint le rang de Yokozuna, le rang duquel on ne peut pas tomber, on va dire. Mais il est donc le rang juste en dessous, Ozeki. Et il veut à tout prix convaincre finalement ses fans ou la population japonaise qu'il a le droit de continuer même s'il baisse de niveau, oui, voilà, même s'il régresse, même s'il arrive à un niveau inférieur à celui de ses débuts, parce que tout simplement c'est sa passion, il aime pratiquer, il veut continuer à faire ce qu'il aime. C'est pas forcément quelque chose qui est facile à entendre au Japon ou peut-être même ailleurs, hein, si Zidane jouant dans un petit club de banlieue à Libourne. Je ne veux pas dire de nom parce que. Mais voilà, qui ne peut-être se ferait ricaner un petit peu. On peut imaginer ça assez facilement. Donc je trouve ça assez noble de sa part, hein, de l'avoir défendu en tout cas dans ce livre. Et j'aime bien l'idée de ce parcours. Alors après, je ne le connais pas personnellement. Moi, je n'ai pas ni mangé avec lui, ni chez lui, ni croisé, mais oui, ça m'a permis un petit peu. Bah, bon, puisqu'il y a peu de sources malgré tout, hein, en français.
En français, oui.
Peut-être, voilà, oui. Donc, ils permettent de. Ma pratique des autres langues étant un peu limitée également, hein, je me suis basé pas mal sur cet ouvrage quand même.
Ce qu'on le voit dans ce roman, justement, il parle des salles d'entraînement, Kirishima, où il allait dans ces salles d'entraînement. En douce.
Oui, parce exactement. Que c'était pas autorisé à l'époque.
Et on était dans les années 90, là.
Oui, oui, c'est ça, 85-95.
Et voilà,
Et jouer golf aussi en cachette.
Ouais. Et puis demander l'autorisation pour se marier également. Sa femme également qui lui permet d'atteindre un poids suffisant, parce que, enfin, supérieur à celui qu'il n'arrivait pas lui à atteindre. Donc le rôle des épouses aussi. Moi, je sais pas trop après là si vous avez, j'ai pas réussi à passer assez de temps et puis voir les familles enfin autour des lutteurs eux-mêmes, mais je sais pas si vous avez croisé
parce que pour ça il faut carrément s'incruster dans une famille, ce que moi j'ai pas fait. Et deux, parce que en fait il y a deux populations de sumo. Il y a les juryo, donc en gros ce sont ceux qui vont combattre les matins pendant les tournois, et ceux-là ne font que 7 matchs, alors que ceux de l'après-midi, au total, dans le tournoi, ils feront 15 matchs. Alors pourquoi ils ne font que 7 matchs ? Parce qu'ils sont tellement nombreux qu'ils ne peuvent pas combattre tous les jours pendant les 15 jours du tournoi si on veut que tout le monde ait fait 7 matchs. Ça, c'est ceux du matin. Et ceux du matin, on peut considérer que c'est des sumotori professionnels, mais apprentis. Bon. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en fait logés dans l'écurie, tous ensemble, dans des dortoirs. Ils dorment de façon collective. Ils n'ont aucune autonomie financière. Ils sont nourris et logés par l'écurie. Point. Ils sont en général loin de chez eux, parce qu'ils viennent de tout le Japon pour ça. Et donc, eux n'ont pas de famille, ça c'est par définition. Donc, ceux qui n'ont pas fondé leur foyer. Ceux qui fondent leur foyer, c'est plus tard, quand ils ont eu accès aux classes supérieures, donc les Sekiwake, les Megashira, les Ozeki et forcément le Yokozuna. Donc ces gens-là des classes supérieures, dès lors qu'ils accèdent qui dépasse le rang de juge Rio ont droit à des chambres individuelles, voire à des appartements. Et puis, dès qu'ils commencent à gagner un petit peu d'argent, ils peuvent dire « je ne loge plus dans la EIA ». Mmh. Et à ce moment-là, ils ont liberté de fonder leur famille. Bon, il y en a souvent qui, quand ils arrivent, ils sont assez maigrichons, ils ont déjà connu un petit peu la vie dans leur campagne, ils avaient des copains et des copines. Puis là, quand ils sont dans les dortoirs et autres, ben c'est un petit peu triste pour eux. Et ensuite, ils reviennent à une vie un peu normale quand ils grimpent dans la hiérarchie. Bon. Ça ne veut pas dire qu'ils auront une vie... il y en a beaucoup qui ont une vie de famille normale avec femme et enfant. Ce n'est pas le cas pour tous. Il y en a qui sont...
Il y en a qui passent toute leur vie en Jurio.
Enfin, voilà. Ouais. Alors ceux qui font toute leur carrière en Jurio, ils ont... on considère que quelqu'un qui a fait plus de 10 ans en Jurio, il vaut mieux qu'il arrête. Ça, d'une façon générale, on en voit très peu qui vont au-delà de... Et ils vont faire autre chose, ou ils changent de sport. Mais c'est pas forcément simple. Hein. Et de ce point de vue, le film, Tu seras sumo, enfin, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, mais il est extrêmement intéressant, parce que c'est une tranche de vie d'une honnêteté inouïe.
Je rebondis sur ce que vous disiez. Il y a une phrase dans l'ouvrage de Kirishima, où il y a un moment une discussion entre le lutteur sumo Kirishima et son maître, où son maître lui dit « Tu découvriras le plaisir après le sumotori ». Et Kirishima comprend qu'en effet, il est pour le moment intégré dans une écurie, il doit vivre au rythme de cette écurie, et que ce sera une fois qu'il aura cette indépendance-là qu'il pourra découvrir un peu les plaisirs finalement. Pour information, la manifestation continue jusqu'au 2 juin. Demain soir, il y a deux rendez-vous. Un rendez-vous au Cinéma Utopia avec le passage d'un documentaire qui s'appelle « Sous les bulles, l'autre visage de la bande dessinée » qui a été réalisé par Mayana Bideguin et qui met en avant un petit peu le statut précaire de l'auteur de bande dessinée, qui sera suivi d'une rencontre avec les auteurs de bande dessinée et la directrice de la SAIF qui est une société civile qui gère les droits d'auteur de l'image fixe, donc photos et bande dessinée. Ça, c'est Cinéma Utopia, 20h30 demain soir. Et à la salle de concert du Bootleg, où à partir de 20h, il y aura 6 groupes de musique qui sont programmés, avec 5 dessinateurs qui réaliseront une fresque en arrière-scène sur la scène du Bootleg. Donc c'est un concert dessiné plutôt live et vivant. Voilà. Et par la suite, la manifestation continue, avec vendredi 31 mai aussi, une performance musicale avec un musicien japonais, cette fois-ci, qui s'appelle Kenzo Onoda, qui sera présent à la librairie Galerie Nakanoï avec Johanna Schipper, qui est une auteure de bande dessinée bordelaise, et tous deux réaliseront une performance, l'un sonore, l'autre visuel. Et samedi, on fera la soirée de clôture de la manifestation avec la projection du film Couleur de Pommiel, qui est adapté d'une bande dessinée par Jung, auteur de bande dessinée bordelais toujours, et une lecture dessinée d'un roman de Lucie Brault qui s'appelle Ferdinand, qui est paru aux éditions Inuit et qui sera mis en image par Alfred. Voilà, et on clôturera dimanche avec la réalisation d'un fanzine qui sera un objet qui reprendra un petit peu l'ensemble de la manifestation, des 15 jours de la manifestation, et qui sera un fanzine participatif dans lequel il y aura des auteurs de bande dessinée professionnels qui vont y participer, et aussi public amateur. Vous êtes tous invités à venir y participer, aussi bien pour y dessiner que pour y écrire. Et ce fanzine sera par la suite publié et donné gratuitement à l'ensemble des publics sur les différents lieux où ont lieu les expositions. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair.
Bravo.
Merci en tout cas. Bonne journée à vous.